carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Bruegel, portement de croix. Peter Bruegel, l'ancien, une des figures majeures de la peinture flamande du XVIe siècle. Une vie brève, mais intense en création artistique. Environ 45 tableaux en une quinzaine d'années seulement, dont une bonne partie au Kunsthistorisches Museum à Vienne. Et en cette période de fin de carême, le monde chrétien se souvient du chemin de croix. Et cette œuvre de Bruegel, portement de croix, y prend toute sa place singulière. Canal Académie a déniché un ouvrage, on pourrait dire confidentiel, entièrement consacré au regard et à l'analyse de cette œuvre importante. Son auteur, Michael Gibson, nous fait l'amitié de venir dans nos studios pour nous en parler. Michael Gibson, bonjour.
Bonjour Christa Leuc.
Permettez-moi de vous présenter brièvement à nos auditeurs. Vous êtes historien de l'art, critique d'art et romancier, tant en anglais qu'en français. Une longue et fertile carrière de journaliste vous a fait collaborer, entre autres, à l'International Herald Tribune, au New York Times, Art in America ou encore à Connaissance des Arts, entre autres. Et en tant qu'écrivain, une monographie consacrée au dadaïsme et à Marcel Duchamp, Duchamp Dada, a reçu la récompense du livre d'art international, le prix Vasari, en 1991. D'autres monographies suivirent sur Paul Gauguin, Odilon Redon, l'art symboliste chez l'éditeur Taschen ou encore sur Alexandre Calder. Shakespeare aussi est à l'honneur avec une traduction en français de 26 sonnets et ces dernières années furent presque entièrement consacrées à une monumentale trilogie Chronicles of the Greater Dream sous la mystérieuse signature de Miguel Errazu. Mais revenons-en au portement de croix, histoire d'un tableau de Peter Bruegel, l'aîné, qui donne en anglais « The Mill and the Cross », un beau livre avec moult illustrations, qui, chose assez extraordinaire pour être soulignée, est à la base d'un documentaire fiction en préparation avec un réalisateur polonais, Lech Majewski. Alors Michael Gibson, dites-nous tout, pourquoi Bruegel et pourquoi ce tableau plutôt qu'un autre ?
Eh bien, d'abord parce que j'aime tout particulièrement l'œuvre de Bruegel. Je pense que ça a commencé quand j'avais 10 ans et que j'avais une reproduction dans ma chambre d'enfant de Chasseur dans la neige et qui m'a beaucoup fait rêver. Mais je me suis attaché à ce tableau-ci parce que c'est un tableau singulier. Il y en a d'autres, évidemment, qui sont plus difficiles à commenter, mais celui-ci a des particularités que je vais expliquer, n'est-ce pas? D'abord, c'est un grand tableau. Il fait 1,70 m sur 1,24 m, mais il est peint à la manière d'une miniature. Donc, il y a une grande foule de personnages dedans. Il y a un foisonnement même dans ce tableau, un grand foisonnement.
Donc, avec quelque chose comme 500 personnages.
500 personnages, en effet, oui. Ça a été compté par un historien de l'art très patient, pas par moi. Il y a un côté stylistique qui est intéressant. Je vous verrai quand on parlera du traitement de la Vierge et des Saintes Femmes avec Saint Jean. Il y a une méthode narrative particulière. Il y a un double sujet que Bruegel raconte dans une seule image et qui est donc à la fois l'histoire de la passion du Christ et l'histoire des épreuves des Pays-Bas sous le régime espagnol de son époque. Et enfin, son tableau lui permet de cette façon de développer un récit général du monde et une réflexion sur l'histoire, ce qui justifie à mes yeux qu'on l'appelle le Shakespeare des Flandres.
Oui.
Bon, alors, le tableau soulève surtout quatre questions. Pourquoi le Christ est-il si bien caché ?
Oui, ça c'est vraiment une grande question que tout le monde doit se poser quand il se trouve devant les tableaux, parce qu'on a du mal à situer ou à localiser.
D'autant plus qu'il est exactement au milieu du tableau. Mais il y a une stratégie, je crois que je pourrais en parler dans un instant.
Peut-être un peu plus tard, oui, quand on parlera des différents détails du tableau.
Pourquoi le moulin qu'on voit est-il perché si haut sur un rocher ?
Chose extrêmement curieuse, bizarre.
Pourquoi le groupe des Saintes Femmes avec Saint Jean est-il traité dans un tout autre style que le reste du tableau? Et pourquoi la troupe qui conduit le Christ et les larrons au Golgotha est-elle précédée par la bannière des Habsbourg?
Vous parliez des catholiques espagnols?
Oui, parce que c'était...
Il y avait un régime de Philippe II, oui. Habsbourg, enfin, c'était la partie espagnole des Habsbourg.
Charles Quint avait... cédé le pouvoir à son fils Philippe II, qui était reparti en Espagne. Il n'aimait pas les Pays-Bas où il avait grandi. Et il a voulu appliquer la politique espagnole qui était...
plutôt austère et rigoureuse.
Inquisitoriale.
Inquisitoriale.
Il y avait une lutte contre la réforme. Mais enfin, ça, nous en parlerons aussi.
Oui, ça, c'est encore un autre vaste sujet, en effet. La bannière des Habsbourg, ça vient donc de ce fait.
Oui, c'est-à-dire que à l'époque de Bruegel,
oui.
Quand lui-même vivait d'abord, il a vécu d'abord à Anvers, mais enfin ça, j'y viendrai aussi. Il a été témoin de répressions extrêmement cruelles, de tortures, n'est-ce pas?
Et des soldats.
Et les soldats qui portaient les tuniques rouges, qui en flamand s'appelaient les Rode Rocks. Et les Rode Rocks étaient des mercenaires au service du pouvoir espagnol.
Oui.
Peut-être c'est l'occasion de parler un peu du contexte de la création.
Voilà,
oui.
Nous décrire peut-être un tout petit peu pour nos auditeurs qui n'ont pas forcément le tableau devant leurs yeux, encore que nos auditeurs ont quand même la chance de pouvoir regarder le tableau sur le site internet de Canal Academy. Donc ils ont quand même un grand avantage. Mais si vous voulez bien, Michael Gibson, nous décrire un petit peu les différentes scènes.
Oui, alors il faudrait peut-être dire une chose aussi. Bon, le tableau, comme vous l'avez dit, se trouve au Kunsthistorisches Museum à Vienne. Il a été peint en 1564 et il a été, il faudrait peut-être que je donne le contexte personnel de la vie de Bruegel. N'est-ce pas? Bruegel avait vécu à Anvers jusqu'à 1563.
Il
est né
en
1525 par là. On ne sait pas la date exacte de sa naissance. Il s'est marié et sa belle-mère a exigé, parce qu'il avait, il vivait à Anvers, il avait eu une liaison avec une femme qui vivait là-bas, qui ne lui convenait pas. Il y avait des récits qu'elle était particulièrement menteuse et qu'il avait même essayé une stratégie pour l'enguérir, mais que ça n'avait pas marché. Donc sa belle-mère a exigé qu'il vienne à Bruxelles. Il s'est installé à Bruxelles en 1563. Il s'est marié. En 64, son premier fils est né. Et je crois que c'est significatif qu'il a peint un certain nombre de tableaux cette année-là. En tout cas, l'adoration des mages qui est à Londres. Et puis,
qui est sublime aussi.
Le portement de croix. Et il y aura une analogie que je vais faire entre les deux dans un instant. Donc, pendant qu'il était à Anvers, il a été témoin de certaines choses qui ressortent dans ce tableau, puisqu'il s'agissait, comme j'ai dit, de cette répression politique et religieuse. Donc, pour ce qui est du tableau, comme je l'ai dit, c'est une grande miniature. Et moi, j'ai eu le privilège de me tenir debout sur un tabouret pendant une matinée avec une loupe à la main, ce qui m'a permis de l'étudier en détail, comme personne ne le fait d'ordinaire, n'est-ce pas? Nous, les visiteurs, normalement, le voient à une distance d'à peu près un mètre. Et c'est un tableau qui est fait pour être vu de très près. Il y a des personnages qui ne sont pas plus grands que 2 millimètres, mais qui sont significatifs néanmoins.
Oui.
Donc,
et je peux dire à ce moment-là que, justement, dans votre livre, c'est une des choses qui est une de ces qualités extrêmement précieuses, c'est qu'on trouve dans votre ouvrage qu'on a cité, toutes les références pourront être lues sur notre site, bien sûr, mais donc dans votre livre, vous détaillez les différentes scènes que vous allez peut-être nous expliquer. Et ça, c'est un apport extrêmement précieux parce que c'est rare de trouver tous ces détails et encore d'avoir l'explication qui va avec.
Oui, alors le tableau, lui, c'est un grand paysage, n'est-ce pas, qui est en fait marqué d'un grand mouvement de foule qui va de gauche à droite, c'est-à-dire de la ville qui est dans le cercle de ses murs en haut à gauche, vers le Golgotha qui est marqué par un cercle noir de personnages qui attendent l'exécution, à droite. Et la foule fait un troisième cercle qui bouge comme si le rocher avec son moulin était l'essieu d'une roue. Et cette foule tourne autour de cet essieu. Ça, c'est une chose. Ensuite, il faut dire que du côté de la gauche, il y a des arbres vivants, feuillus. Il y a la lumière du jour, le soleil, il y a la vie. Et sur la droite, il y a la roue montée sur un grand tronc d'arbre, la roue du supplice. Il y a le crâne de cheval, il y a l'orage et l'ombre et la mort. Donc c'est un cheminement qui va de la vie à la mort. La plus grande partie de la foule va dans cette direction-là. Il y en a d'autres qui rentrent dans la ville parce que ce sont des paysans, des journaliers, des bergers qui vont pour vendre leurs denrées au marché.
Donc c'est en forme de cercle, on peut dire, toute la composition du tableau. Il y a ce grand cercle donc de la foule, comme vous venez de dire, et puis il y a aussi, on voit aussi le cercle du Golgotha. C'est un petit cercle dans la partie sombre de la mort, comme vous venez d'expliquer.
Et de l'autre côté, dans la lumière du jour, il y a le cercle des murs de la ville. Et la ville qui est traitée avec un détail inouï, n'est-ce pas, quand on regarde le tableau de loin, on voit simplement une des murailles et quelques bâtiments. Mais moi, j'avais pu le regarder, comme j'ai dit,
avec
à la loupe.
Avec la loupe.
Et il y a des rues, et dans les rues, il y a des personnages qui se promènent.
C'est absolument vraiment invraisemblable.
Donc, il y a autre chose, là, près du crâne de cheval, il y a le groupe de la Vierge avec les saintes femmes, qui est traité dans un style archaïsant. Ce n'est plus du tout le même style. Mais ça, on y reviendra. Et puis, il y a tout à fait sur la droite un homme en blanc qui observe la scène avec à côté de lui un homme en noir qui est effondré, qui pleure. J'ai déduit comme ça en étudiant le tableau pendant plusieurs mois sur reproduction avant de le regarder au musée. Je suis arrivé à la conclusion qu'il s'agissait de Bruegel lui-même. Alors j'ai été très heureux de constater que c'est ce que dit le cartel à côté du tableau au Kunsthistorisches Museum également.
Ah, est-ce que ça porte votre signature ?
Non, ils l'ont trouvé de leur côté.
Oui, je crois que c'était assez habituel quand même. Bon, chez Rembrandt, c'est un peu plus tard, mais,
non, mais dans
au XVIe siècle, enfin, chez Bruegel...
Oui, au XVe et au XVIe, les peintres flamands se mettaient...
On avait les peintres qui se cachaient quelque part dans un coin.
Ils se mettaient dans la foule, c'est ça, oui, tout à fait.
Mais enfin, il fallait encore trouver parmi les 500 personnages où ils pouvaient
c'est un des seuls personnages qui observe la scène. Les autres sont occupés à leurs affaires, ils ne vont qu'à leurs affaires.
Oui.
Et c'est un portement de croix. Mais il est frappant qu'on ne le trouve pas le Christ, qu'on a du mal à le trouver, que Bruegel s'est ingénié pour bien le cacher, et que ce que le spectateur voit en premier lieu, c'est un foisonnement de détails anecdotiques. Les gamins qui sautent des flaques de l'eau, de la pluie de la veille, qui sautent à la perche, des personnages de tous les âges, de tous les milieux sociaux. On ne se rend pas compte. La foule, sauf les badauds, il y a des badauds qui regardent les condamnés, surtout les larrons. Il y a des badauds qui sont agglutinés. Mais sinon, les gens ne remarquent pas ça.
Ils semblent aller pousser vers une espèce de curiosité, vers le spectacle.
Oui, ils attendent
spectacle.
Le spectacle. Vous savez, c'était usuel à l'époque. On faisait des supplices pour divertir la foule. Huitzinger, dans son déclin des Moyen-Âge, raconte qu'il y a une ville qui, parce qu'il n'y avait pas de divertissement, ils ont acheté un condamné à mort à une ville voisine pour pouvoir le torturer et le mettre à mort chez eux pour amuser la foule. Il y avait une attitude comme ça qui est scandaleuse pour nous, mais qui était usuelle à l'époque.
J'ai entendu parler qu'encore aujourd'hui, malheureusement, ce genre de spectacle a encore lieu dans certains pays. Enfin bon, passons.
Oui.
Vous dites aussi que dans le tableau, il y a comme deux histoires en parallèle.
Oui, donc, d'un côté, ça raconte l'histoire évidente, c'est la passion du Christ. C'est bien le Christ qu'on amène à Golgotha, ce sont bien les larrons, mais c'est transposé. C'est transposé dans un contexte contemporain, pas seulement, c'est pas un anachronisme. Il y a une femme au premier plan qui a un chapelet qui lui pend de la poche. On peut sourire en se disant c'est anachronique. Non. C'est quelque chose qui évoque l'époque de Bruegel. Alors, il faut se dire une chose, n'est-ce pas ? Quand, en 1555, Charles Quint a confié les Pays-Bas à son fils Philippe II, Bruxelles, à l'époque, c'était un petit bourg, mais Anvers, c'était le grand port cosmopolite du Nord, qui faisait plus d'affaires en un mois que Venise dans toute une année, paraît-il.
Et qui était une grande ville.
Et donc, c'était une grande ville commerciale, grande ville culturelle. Il y avait une foison de tisserands, on faisait de la tapisserie, on faisait du tissu. Il y avait des imprimeurs, il y avait Christophe Plantin, qui était un grand imprimeur, il y avait des graveurs, il y avait un commerce culturel énorme.
C'est vraiment un carrefour de culture, en tout cas.
Un grand carrefour. Mais le destin de la ville d'Anvers a été déterminé par la présence active de la réforme là-bas, qui a décidé, Philippe II, à mettre en vigueur les édits de son père, qui disait que les hérétiques sont des personnes séditieuses, qui nuisibles à l'État et à la paix commune, et les hommes doivent être mis à mort par l'épée et les femmes enterrées vives. C'était la loi. Les villes flamandes, elles, avaient une tradition d'autonomie urbaine. Elles n'ont pas pris ça avec sérénité du tout. C'est en 1561, donc quand Bruegel était encore à Anvers, c'est seulement 3 ans avant qu'il ait peint ce tableau, il y a eu le fameux Landjuwel, c'est-à-dire la fête du pays, qui était un concours de chambres de rhétorique. Chaque ville avait sa chambre de rhétorique. Et tous les gens cultivés de ces villes participaient dans ces chambres de rhétorique. Ils faisaient des décors, etc. Bruegel faisait des décors pour le Landjuwel d'Anvers. Et pour juste donner pour une idée de l'échelle, il y a eu 2000 orateurs qui ont participé. Ils sont entrés en ville vêtus de soie avec des perles dessus, avec une escorte de princes, avec des chars décorés par la guilde des peintres. Et ils ont fait une compétition qui a duré un mois entier, qui fascinait toute la ville. Et à la fin de ce mois, ils ont tous ensemble pris position en faveur de la réforme. Résultat, le maire de la ville, Antoine van Stralen, a été mis en prison parce qu'il n'avait pas réussi à contrôler la situation. Oui. Alors, 5 ans plus tard, quand le duc d'Albe est venu, une des premières choses qu'il a faites, c'est qu'il a pris van Stralen, il l'a remis en prison et il l'a fait exécuter. Donc, c'était dur comme situation.
Oui, oui. On disait qu'il y a 2 histoires dans ce tableau. Alors, donc, il y a ce contexte historique que vous venez de nous détailler. Et quelle autre histoire?
Et l'autre histoire, c'est la passion.
C'est la passion.
C'est la passion elle-même.
C'est ça. Donc, il y a le contexte historique et il y a l'ordre de l'événement de la passion du Christ.
Oui, Bruegel fait une comparaison entre les hérétiques qu'on exécute, n'est-ce pas? Et le Christ lui-même.
C'est-à-dire,
ce que vous faites à l'un des plus petits d'entre eux, c'est à moi que vous le faites. Donc, il y a cette thématique qui est là, qui suggère qu'il y a une pérennité dans la lutte entre l'éthique individuelle et le pouvoir.
Après cette évocation historique, nous allons marquer une pause avant de plonger notre regard sur plusieurs détails caractéristiques du portement de croix.
Vous écoutez Canal Académie.
Michael Gibson, après ce parcours historique pour situer, comme vous avez évoqué, les 2 histoires à l'intérieur du tableau, nous pouvons peut-être voir maintenant plus en détail les scènes les plus caractéristiques. Et on peut commencer par ce moulin très étrangement perché sur le rocher.
Oui, mais alors c'était un problème que je me suis posé dès le départ. Pourquoi ? Pourquoi mettons un moulin sur un rocher si élevé ? Du point de vue pratique, c'est insensé. Il faudrait monter la graine pour la moudre, il faudra redescendre la farine. La seule avantage, c'est qu'il reçoit le vent, bien sûr. Mais je me suis dit, il y a une chose dans l'Antiquité. Le moulin était la métaphore usuelle pour le ciel étoilé. Le ciel étoilé tourne comme un moulin. Et on a une trace de ça, dans, par exemple, quand on parle de Bruegel, on dit qu'il est un peintre septentrional. Septentrional, ça vient du latin, septem triones, les sept bœufs. C'est-à-dire que la grande ours, les Romains l'appelaient septentriones, les sept bœufs. Pourquoi? Parce que c'était les sept bœufs qui faisaient tourner le moulin du ciel.
Passionnant, oui.
Cette analogie du ciel avec un moulin, ça se trouve dans beaucoup de parties du monde. Et il y a même un livre par Giorgio di Santillana et Hertha von Dechen, Le moulin de Hamlet, qui explore toute cette thématique, toutes ces traditions mythiques ou mythologiques. Pourquoi le moulin aussi? Parce que non seulement il tourne, mais le moulin céleste, dans la poétique de l'astronomie et de l'astrologie, n'est-ce pas? Tout comme le moulin terrestre écrase le grain pour produire la farine, le moulin céleste, lui, il écrase, je ne sais pas, peut-être des étoiles pour produire le destin humain. Alors pourquoi le mettre en valeur dans ce tableau-là? Eh bien parce que dans ces termes mythiques, la mort du Christ était censée mettre fin au règne cosmique du destin. Le destin, le règne du destin qui était la conséquence du péché originel est brisé. Et la liberté humaine est instaurée. Ça tient aussi à l'histoire de la précession des équinoxes qui fait qu'il y a, tous les 2000 ans, il y a une nouvelle constellation qui apparaît à l'horizon au printemps. Et on est passé de l'ère du bélier à l'ère du poisson, comme aujourd'hui on est passé à l'ère du Verseau. Exactement. Et d'ailleurs, les premiers chrétiens, ils utilisaient le poisson comme symbole du Christ, n'est-ce pas?
Bien sûr, oui.
Et c'était un jeu, je pense, sur ces traditions astrologiques.
Donc, une analogie entre les constellations et plus particulièrement de la Grande Ourse et ce positionnement du moulin, d'après vous, ce serait en relation avec le renouvellement de la vie, en quelque
le
sorte.
Le moulin du ciel qui fait tourner les sept bœufs,
oui,
de l'Antiquité.
Oui.
Et ce moulin-là, qui est un moulin à vent, c'est une figure de ça. Et alors, il y a une autre chose. Appuyé à ce moulin, on le voit quand on s'approche bien, il y a un petit personnage qui est le meunier, qui est en train, oui, d'observer la scène qui est en dessous.
Extravagant.
Et alors, le meunier, lui, il est dans la position, il est exactement situé à l'endroit où, dans la tradition de la peinture flamande, on mettait le bon Dieu sur son trône de nuages, qui observait la scène sur la terre avec deux doigts levés.
Oui, oui, bien
donc,
connu. Et le meunier?
Le meunier, il le remplace en quelque sorte.
Ah,
il commande le moulin du ciel et il est là, il regarde ce qui se passe en bas.
Ah oui. Donc, ça, au sujet du moulin perché là-haut sur son rocher.
Oui.
Et puis, il y a presque à l'opposé du tableau, il y a donc cette scène que vous avez mentionnée tout à l'heure avec les saintes femmes et Saint Jean, qui sont aussi dans une, d'abord, dans des costumes singuliers.
Somptueux, oui.
Ils ne ressemblent pas aux autres personnages du tableau. Ils semblent venir d'une autre époque.
Ils sont peints dans un style noble, archaïque, qui est celui de Van Eyck, de Van der Weyden. Ils ont les membres longs, ils sont très, très raffinés. Mm-hmm. La Vierge est effondrée, Saint Jean la soutient, les deux saintes femmes sont atterrées, elles pleurent toutes les deux. Et il y a comme ça une scène totalement indépendante du reste. Dans le reste, on voit Bruegel qui observe avec un certain humour et un certain amusement le rapport entre les gens et il les traite avec un côté un peu satirique par moment ou en tout cas avec verdeur. Mm-hmm. Et ici, c'est tout à coup une grande musique qu'il y a. Ils sont drapés dans des superbes costumes. C'est un grand luxe. C'est un monde transcendant.
On peut chercher le Christ et on a du mal, mais on en a déjà parlé au début, mais il est au centre, vous dites, au centre précis du tableau.
Oui, alors.
Et il tombe,
il tombe
peut-être
sous sa croix,
la,
oui,
deuxième ou la troisième fois sur le chemin de croix qu'il tombe avant de poursuivre vers
c'est
le Golgotha.
C'est le moment où les soldats vont chercher Simon de Cyrène, justement. Et ça, c'est une des scènes. Mais alors, il y a une chose que je dois dire, c'est que pour cacher le Christ comme il le veut, Bruegel a l'astuce de mettre devant lui un homme vêtu d'une chemise blanche sur un cheval blanc, juste devant lui.
Oui.
Donc, notre regard est arrêté par lui. Et non seulement ça, mais on voit qu'il se retourne, qu'il regarde derrière lui. Qu'est-ce qu'il regarde ? Il regarde une agitation. Pourquoi ? Parce que des soldats sont venus, ils sont en train de s'emparer d'un vieil homme, et il y a une femme qui s'agrippe au vieil homme, c'est Simon de Cyrène et sa femme, et sa femme veut absolument empêcher qu'on l'emmène pour aider à porter la croix. Donc il y a un attroupement de badauds qui se sont arrêtés pour regarder la scène, et il y a des bergers et des ouvriers qui s'éparpillent parce qu'ils craignent que si Simon est trop coriace, c'est eux qui le vont prendre. Donc ça, c'est une chose. D'autre part, pourquoi est-ce qu'on a du mal à voir le Christ ? Bon, c'est une tradition picturale qui remonte à Van Eyck. Il y avait un tableau de Van Eyck, il existe encore un dessin de ce même sujet qu'on trouve dans un musée en Hongrie. L'idée, c'est ce que le philosophe Ernst Bloch appelait l'incognito de la lumière. Ça, c'est un thème qu'on trouve souvent dans l'œuvre de Bruegel. Dans la chute d'Icare, Icare tombe, il y a un berger, il y a un laboureur, il y a un pêcheur, personne ne voit l'homme tomber. Dans le dénombrement à Bethléem, Joseph et Marie arrivent pour être recensés, personne ne les remarque. Dans la conversion de saint Paul, il y a une foule de gens et saint Paul est jeté par terre et il est au milieu de la foule, on ne le distingue presque pas. Et l'idée, c'est que l'événement vraiment significatif qui change la situation du monde passe inaperçu au moment où il se produit.
Donc ça, c'était au sujet de ce Christ difficilement visible dans ce foisonnement de personnages. Quant aux condamnés, très peu de personnes paraissent s'en soucier dans cette foule immense.
Oui, ça c'est évidemment
aussi... Parce que Christ n'était pas le seul condamné, il y en avait d'autres.
Oui, parce qu'il y avait, il y a les deux larrons qui sont dans une charrette. Chaque larron est accompagné d'un moine qui tient un crucifix devant lui, ce qui, dans la perspective de la crucifixion, est un peu terrifiante. Ça, c'est l'aspect, disons, contemporain de la chose. C'est l'hérétique qu'on amène et qu'on lui tient un crucifix devant les yeux au moment où il va mourir. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a des badauds qui s'agglutinent autour de, et qui le regardent avec un jugement très sévère. Mais il y a aussi des femmes qui nous tournent le dos devant la charrette, qui lèvent les deux mains à leur tempe. N'est-ce pas ça? C'est un geste très féminin de compassion, comme ça. On voit ça même dans des photographies contemporaines de scènes de guerre. Les femmes épouvantées, elles font comme ça.
Oui.
Il y a un colporteur qui est assis avec le dos tourné vers nous, tout à fait au milieu du tableau et au premier plan. Il y a un certain nombre de personnes, dont deux femmes habillées de draperies noires à manière de Rubens, c'est très frappant, et leur attitude est dramatique, et elles sont là, la bouche ouverte, ahurie de ce qu'elles voient. Et puis, évidemment, il y a Bruegel, avec à côté de lui cet homme en noir qui pleure, la tête appuyée contre l'arbre de la mort, on peut dire.
L'arbre de supplice, oui.
L'arbre des supplices.
Oui, ça c'est tout à fait à l'extrême droite du tableau. Mais en parlant donc de cette foule qui n'a pas l'air de se soucier de l'action essentielle des condamnés, donc c'est parce qu'ils vont vers le spectacle en gros.
Ils se préoccupent de leur propre vie, n'est-ce pas ? Ils sont, les enfants jouent. Il y a, non loin du Golgotha, il y a un homme avec un enfant de peut-être 8 ans, et on voit que l'homme a enlevé le bonnet de l'enfant, il le tient en l'air, et l'enfant essaye de le prendre.
Oui.
Il y a des petits garçons qui luttent ensemble, il y a des chiens qui courent, il y a des gens qui saluent des cavaliers.
Oui. Tout ça, c'est comme la les vie, jeux d'enfants, presque.
La vie sociale continue, la vie ordinaire continue. Oui. Et au milieu de tout ça, il y a aussi, c'est vrai, on va pour un spectacle. On va voir quelque chose d'inhabituel.
Oui. Oui, certaines scènes que vous venez de décrire rappellent un peu les jeux d'enfants. Autre fameux tableau de Bruegel au Kunsthistorisches Museum.
Oui, bien sûr.
On l'a admiré combien de fois. Et donc, justement, vous venez de parler de ce personnage sur l'extrême droite du tableau Bruegel. C'est peut-être notre dernière question. Il se cache là comme observateur.
Il est, comme vous l'avez dit, pour les autres tableaux des primitifs flamands, le peintre se mettait dans la foule pour observer la scène. Mais ici, il est tout de même très particulier parce que c'est quelqu'un qui a une attitude de réserve et d'observation. On voit qu'il a un regard aigu et dans mon livre, je l'identifie comme Bruegel, mais l'homme à côté de lui, je me suis demandé ensuite si ça ne pouvait pas être le commanditaire du tableau. Le tableau a été en tout cas acquis par un banquier et collectionneur d'Anvers, Nicolas Jongelinck, dont le frère était un sculpteur connu et qui avait un certain nombre d'œuvres de Bruegel. Ça, nous le savons parce qu'il y a dans les archives de la ville d'Anvers, on voit qu'il a donné un certain nombre de tableaux comme garant pour un prêt pour un ami qui apparemment n'a pas pu les payer, puisque les tableaux ensuite sont partis et on les retrouve au Kunsthistorisches Museum.
Oui.
Voilà. Donc,
mais là, c'est une autre histoire, parce que j'imagine que c'est rentré dans les collections des Habsbourg, peut-être...
Assez rapidement, je pense.
Sous Maximilien II ou Rudolf II
Je ne sais pas. Il faudrait voir effectivement ce que disent les archives du Kunsthistorisches Museum. Oui. Ce que je devrais peut-être dire à propos de Bruegel, c'est que quand on étudie le tableau en détail, comme je l'ai fait sur une reproduction, comme j'ai dit, pendant quelques mois, À la loupe.
J'ai été frappé. Tabouret au musée.
Et ça, c'était ensuite. Mais j'ai été frappé de voir comment la narration de Bruegel nous accroche et nous entraîne. C'est pas, on est accroché par l'homme sur son cheval blanc. On regarde l'histoire de Simon de Cyrène.
Oui.
On est entraîné vers d'autres choses. Et un des derniers qu'on remarque, c'est, en tout cas que moi j'ai remarqué, c'était Bruegel tout à fait sur le côté.
Oui.
Et c'est vraiment ce tableau, c'est comme un scénario de film immobilisé.
Nous y voilà tout droit pour ma dernière question, parce que vous allez quand même nous faire le plaisir de lever le voile sur ce projet fantastique de faire un film sur ce fameux portement de croix.
Oui, alors, il s'agit d'un projet qui a été lancé par le réalisateur polonais Lech Majewski. C'est un cinéaste et c'est un artiste vidéo. Il a fait des films comme Le Chevalier, L'Évangile selon Harry, Wojciech, etc. Et il a eu récemment des rétrospectives importantes au MoMA de New York, au National Gallery, au Washington, au Art Institute de Chicago, à la Biennale de Venise.
Et on sait que les Polonais, quand ils sont bons, ils peuvent faire de très très bons films.
Oui, absolument. Et donc dans ce nouveau film qui aura la participation de Charlotte Rampling, nous aurons l'occasion, et ça c'est vraiment le grand avantage du cinéma, c'est que le spectateur aura la chance de faire ce que j'ai pu faire moi-même, c'est-à-dire d'examiner tous ces détails de très près.
Et que je répète que nos auditeurs peuvent trouver dans le livre, n'est-ce pas ?
Oui, voilà. Il y a un projet qui est très riche, mais je ne vais pas trop révéler. Mais
il est un peu avancé ? Vous avez fait le scénario ?
Oui, le scénario est fait. Et il y aura donc une partie avec des comédiens, qui va être une sorte de reconstitution du tableau en docu-fiction, mais je dirais en fiction poétique. Ce sera une fiction poétique et qui sera suivie par une exploration du tableau lui-même.
Comme je peux en témoigner, comme d'ailleurs l'écriture de votre livre, parce que c'est non seulement on est émerveillé par le regard tellement approfondi et tellement détaillé que vous portez sur ce tableau, mais aussi par la poésie que vous trouvez dans chacune des scènes et aussi dans votre écriture. Donc je suis tout à fait confiante que le film aura une belle signature poétique. En tout cas, je vous souhaite vraiment une belle réussite, parce que je crois que c'est actuellement il y a une vague comme ça de s'intéresser au tableau par la vidéo éventuellement ou par le cinéma. En tout cas, après ce voyage au pays de Bruegel, il ne me reste qu'à vraiment vous remercier sincèrement, Michael Francis Gibson, parce que grâce à votre recherche, on pourrait presque dire votre enquête sur cette œuvre majeure, les auditeurs de Canal Académie pourront dorénavant avoir un regard neuf et avisé devant le portement de croix que l'on peut admirer, je le rappelle, dans son original au Kunsthistorisches Museum de Vienne. Et nos auditeurs trouveront sur le site de Canal Académie toutes les références du livre de Michael Gibson, Portement de croix, histoire d'un tableau de Pierre Bruegel l'aîné, qui est disponible toujours dans les librairies spécialisées. Merci infiniment, Michael Gibson.
Merci, Christa Leclerc.